Sud Radio.
Le grand référendum. 11h midi.
Philippe David.
Comme chaque jour, pendant une heure, nous débattons avec Philippe David et ses invités. Et vous, vous répondez à la question que l'on vous pose. C'est le principe du grand référendum. La question de ce mercredi à propos d'Airbnb. Les hôteliers ont-ils raison de se rebeller? Eh bien, pour l'instant, vous êtes nombreux à nous dire oui sur sudradio.fr. Mais ça peut changer, évidemment. 70% exactement. Vous nous le dites sur sudradio.fr. Vous répondez oui ou non. Vous laissez vos commentaires. Et bien sûr, si vous voulez en débattre sur l'antenne en direct avec Philippe et ses invités, vous appelez le 0826 300 300, le grand référendum jusqu'à midi sur Sud Radio.
Si nous parlons de ce sujet aujourd'hui dans le grand référendum de 11h à midi sur Sud Radio, c'est parce que des professionnels du secteur de l'hôtellerie et de l'immobilier vont porter plainte pour que les plateformes de location saisonnière type Airbnb, mais pour ne pas faire de jaloux, on pourrait citer Homeway, Abritel ou Le Bon Coin, respectent le même cadre réglementaire que les intervenants du secteur. Est-ce un combat d'arrière-garde? Les plateformes en ligne étant un nouvel intervenant de l'économie numérique, peut-on parler de concurrence quand tous les intervenants ne répondent pas aux mêmes règles fiscales et sociales? Airbnb, les hôteliers, ont-ils raison de se rebeller? C'est la question de ce matin dans le grand référendum sur Sud Radio. Face à moi, Charles Becbédé, homme d'affaires, président de Gravitation, qui investit notamment dans les domaines du transport, de l'énergie, de la croissance verte et de l'internet, fondateur de L'Avant-Garde avec Charmillon, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Et Didier Chenet, président du Sinorcat, premier syndicat hôtelier, restaurateur, cafetier, traiteur, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Alors, vous avez raison de vous rebeller, je pense, d'après vous.
Ce qui est important, et vous l'avez noté, c'est que ce ne sont pas les hôteliers simplement qui se rebellent. C'est tout un secteur de l'économie qui se rebelle contre une concurrence déloyale. C'est ça qui est important. Encore une fois, la compétition, la concurrence, nous, elle ne nous fait pas peur. Rien ne nous fait peur. Des nouveaux entrants dans une compétition, dans une concurrence, et notamment l'hébergement ou la location, bah, ça fait partie de la vie, le numérique arrive. Très bien, bienvenue j'ai envie de dire, et peut-être que ça bouscule un petit peu nos habitudes, ça bouscule, ça va peut-être nous amener, ou ça nous amène à corriger un certain nombre de choses. Mais par contre, ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que ces nouveaux entrants exercent des métiers pour lesquels ils n'ont aucune autorisation, première des choses, et la deuxième des choses, l'exercent de façon totalement déloyale, en ne payant ni un certain nombre d'impôts, ni un certain nombre de charges. Voilà le problème.
Pour vous, Charles Becbédé, ils ont tort de se rebeller.
Écoutez, non, je pense pas qu'ils ont tort. Je suis entrepreneur. J'ai souvent été nouvel entrant dans des domaines qui étaient très réglementés, bloqués, dans les services financiers, dans l'énergie. Et là aussi, dans un autre secteur qui rejoint l'hôtellerie, c'est la réservation d'hôtels avec une plateforme qui s'appelle Pilgo, parce que là, il y a un nouvel oligopole qui s'est créé avec ces grandes plateformes de réservation hôtelière que sont Booking et Hotel.com. pour ne pas les citer, et qui exerce un vrai cartel. Ce qui se passe, c'est que le digital, en effet, a apporté un certain nombre de bénéfices.
Numérique.
Franchement, c'est vrai que la location occasionnelle de résidences secondaires, par exemple, c'était compliqué. Et il y avait plein de résidences secondaires en France qui sont vacantes. Et c'est dommage. Et là,
l'époque d'Internet, avant Internet, on achetait même le bouquin, les locations saisonnières. Il y avait toute la France.
C'était inefficace.
Il faut reconnaître. Atlantique, Pyrénées, Alpes, Massif central.
Exactement. Il y avait plein de coûts de transaction, une perte donc de richesse. Et le digital donc fluidifie cela. Et donc, il y a des plateformes qui se sont créées, qui se sont mis là-dessus. Et ça, c'était donc vraiment très positif. Le problème, c'est que certains ont dévoyé le système et en ont complètement abusé et ont industrialisé cette porte qui était ouverte et encore une fois qui était une bonne chose pour finalement acheter des appartements dans des centres-villes de grandes villes très touristiques et puis qui en font un métier et qui sont en totale concurrence déloyale avec les hôteliers. Donc alors, je ne peux que soutenir cette initiative.
Je vais vous poser une question. Merci. Didier Chenet, est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde? Parce que les plateformes en ligne, c'est un nouvel intervenant de l'économie numérique et ce n'est pas la seule.
Oui, ils ont réussi une formidable campagne de communication à vouloir nous faire passer pour des ringards. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a l'économie moderne, nouvelle, parce que c'est numérique, parce que c'est jeune, parce que c'est ceci. Puis en face, vous avez des vieux crocodiles qui sont là, qui s'arc-boutent et tout. Non, je peux vous assurer que le numérique, nous, les hôteliers, mais ça fait déjà 20 ans combattants que nous pratiquons le numérique. Et Charles Babel l'a rappelé, avec notamment les centrales de réservation. Mais ça fait des années, on connaît parfaitement tout cela. Nous, ce que nous disons simplement, encore une fois, c'est un combat, je dirais, simplement de moralisation. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, par toute cette économie qui se développe et qui est une économie, moi j'ai employé un terme très fort, mais c'est de l'économie au noir, il faut dire les choses comme elles sont, où il n'y a aucun paiement de charges sociales, d'impôts, qui demain va financer, quand on paye des impôts et des charges sociales, eh bien on les paye pour financer tout un tas de choses, et notamment les hôpitaux.
Retraites, la maladie.
Les retraites, la maladie et tout.
Le budget de la défense, voilà. Parce que quand on a des militaires pour protéger la Tour Eiffel ou Notre-Dame, on est content de les avoir et il faut bien les payer. Bon.
Et demain, alors je vais vous prendre un exemple peut-être extrême, mais demain, vous avez besoin d'être opéré à cœur ouvert et vous allez, vous vous posez pas la question, en France c'est tant mieux, formidable, on a un formidable système de santé, peut-être quelquefois avec des abus, mais on a un formidable système, qui paiera demain? C'est Airbnb qui va nous payer cette opération ? Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'on est en train de mettre à bas tout un modèle social qui est aujourd'hui, avec les critiques qu'on peut formuler, mais qui est quand même aujourd'hui la force et surtout un apport pour tous les Français.
Charles Becbédé, c'est pas un combat d'arrière-garde. Les plateformes en ligne, c'est le nouvel intervenant, un des nouveaux intervenants, mais un des plus connus.
Non mais c'est pas parce que c'est digital que c'est forcément cool.
Mais vous ça, faites en anglais, digital en français c'est numérique.
Oui, pardon.
Cool, par contre.
Mais, alors c'est pas parce que c'est numérique que c'est super. Parce que attention. Non mais encore une fois, il y a des aspects. Ça apporte une practicité des aspects intéressants. Mais franchement, il y a des règles, il y a un cadre, il y a le loueur en meublé professionnel, les agences de voyage, la para-hôtellerie, il y avait tout ça qui existait. Moi, quand j'ai créé ma première boîte, c'était Self-Trade qui est devenu Boursorama, je peux vous dire que si j'avais créé sans demander un agrément à la Banque de France, j'aurais été immédiatement en prison. La deuxième boîte, c'était un fournisseur d'énergie, il fallait un agrément du ministère de l'énergie. Sinon, ce qui est curieux, c'est que depuis quelques années, il y a une sorte de laxisme. Parce que comme c'est numérique, donc c'est super, c'est des jeunes, ça vient des États-Unis, voilà. Et du coup, on laisse faire. Il y a un laxisme incroyable. Alors c'est vrai qu'au début, il y a quelques petits avantages, c'est pratique, et puis ça permet à un complément de revenu à certaines personnes. Mais quand il faut que ça reste occasionnel, sinon, c'est l'anarchie. Alors donc peut-être qu'il faut une grande remise à plat de tous ces métiers, parce que c'est plus possible.
Charles Becbédé, je vous connais un petit peu.
Oui.
Quand je vois je connais le libéral que vous êtes et que je l'entends tenir ce propos, je me dis, est-ce que mon casque fonctionne bien? Ou je me dis, est-ce qu'à l'orée de l'an de grâce 2017, Charles Becbédé a viré sa cutie économiquement?
Ou est-ce qu'enfin on arrive à communiquer correctement?
Mais non, mais je crois qu'il était très bien, vous êtes là en face de l'autre, je suis entre les deux.
Vous confondez libre entreprise, entrepreneuriat avec jungle. Moi je suis pour qu'il y ait des règles et que les gens respectent les règles. Sinon c'est l'anarchie. Et d'ailleurs, Adam Smith, le grand théoricien du libéralisme
économique,
il était pour qu'il y ait des règles et un État fort qui fasse respecter les règles. Mais un État fort qui s'occupe juste du régalien, précise.
Et pour vous, Didier Chenet, est-ce qu'on peut comparer Airbnb, Homoé, Abritel, Le Bon Coin? Parce que je ne veux pas qu'on cite que Airbnb. Avec un hôtel, parce que les services sont quand même pas du tout les mêmes.
Ah ben j'espère bien que les services sont pas les mêmes, qu'on est meilleurs. J'espère bien. Non, ce qui se passe, si vous voulez, et c'est là où il faut... Il y a une formidable idée au départ. Formidable idée qui est de dire, bon, écoutez, vous êtes dans un coin du monde, vous savez pas où aller, vous n'avez pas forcément les moyens, vous savez pas où aller donc dormir... Et vous avez le fameux matelas comme pneumatique. Bon, après, ça s'est donc formidablement développé. Et comme disait Charles Becbédé, nous, notre problème, ce n'est pas la location occasionnelle et saisonnière.
Celui qui va louer ça pendant une semaine.
Mais bien entendu,
je
vais vous dire, au contraire, à la limite, ça participe d'un apport, effectivement, pour ces quelques personnes, et qui vont certainement remettre dans le circuit économique. Donc, c'est pas ça.
Mettre un peu de beurre dans les épices. Pinard,
bien sûr,
nous, ça fait venir des gens dans les capitales.
Bien sûr,
donc,
bien sûr,
pour la
ça.
Restauration.
Mais c'est pas nouveau non plus, parce que vous savez, avec Erasmus, le formidable développement d'Erasmus, nos jeunes aujourd'hui ils sont européens et ils vont. Airbnb leur permet simplement là, lorsque
d'aller
c'est ça,
une fois à Dublin,
d'aller
une fois à Bruxelles.
Là
une
où
fois à
ça ne va pas, c'est ce que rappelait Charles Becbédé, c'est que vous avez aujourd'hui des professionnels qui ont acheté, qui achètent des appartements et qui les louent sans aucune contrainte. Vous comprenez bien que quand vous louez un appartement, vous louez avec un bail classique 369, mais vous ne pouvez pas mettre votre locataire dehors s'il ne vous paye pas, vous pouvez pas. Vous avez
sauf
des
si
contraintes.
Vous voulez en meublé, là, c'est des baux de un an.
Un an, absolument, en meublé.
Mais parce que Airbnb, c'est que du meublé. Hein.
C'est que du meublé, mais l'histoire
oui, mais
de
c'est
dire...
deux jours. Voilà, c'est pas un an.
D'accord.
L'histoire de dire, écoutez, venez découvrir et vous allez être accueillis par des autres et tout. Et je suis pas le seul. Regardez de temps en temps dans les rues, que ce soit à Paris, à Nantes, à Lyon, regardez ces pauvres touristes qui quelquefois errent dans les rues, traînant leurs valises à roulettes et cherchant le code qu'ils espèrent bien avoir, ou la personne qui voudra bien vous passer la clé pour rentrer dans l'appartement. Et là, vous avez strictement personne qui vous accueille. Ce qui pose un autre problème, qui est le problème de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, tous les codes d'accès des immeubles, toutes ces affaires-là, mais ça ne vaut plus rien. Même votre clé, votre porte blindée, ça ne vaut plus rien. Vous avez un gros problème. Je reviens du Japon, puisque nous avons été appelés par les deux associations hôtelières japonaises qui nous demandaient donc une aide auprès de leur gouvernement pour dire, montrez-leur, dites-leur bien, la sécurité.
Si les Japonais vous appellent à la rescousse, c'est qu'ils ne sont pas très bien alors.
Non, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien parce que leur gouvernement voulait passer un accord dans le cadre des Jeux Olympiques avec Airbnb. Et ils ont dit, mais enfin écoutez, est-ce que vous vous rendez compte de la situation? S'ils le font, eh bien à ce moment-là, vous le faites dans le cadre de règles. Mais pas, j'allais dire, cette espèce de communication de bisounours. Hein. Tout le monde, il est beau, et puis vous êtes encore une fois des ringards.
Il y a une autre chose, c'est que bon, moi, je suis élu à Paris, hein, dans le 8e arrondissement.
Dans le 8e, oui.
C'est bien placé.
Mais il y a un vrai problème au niveau de Paris.
Il y a les Champs-Élysées avec un coin pas du tout touristique.
Une population parisienne qui diminue. Hein, une quasi-impossibilité de trouver des locations pour des gens qui veulent vivre à Paris dans certains arrondissements très touristiques, plus un renchérissement incroyable des loyers. Et ça, c'est la conséquence de cette folie Airbnb. Donc, encore une fois, il y avait des choses intéressantes au tout début, puis ensuite, le système s'est complètement dévoyé.
Et ça a des conséquences pour les salariés de tous les secteurs. Parce qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus habiter à côté de votre lieu de travail, eh bien, vous êtes rejeté avant... c'était la première périphérie, maintenant c'est la deuxième, voire la troisième périphérie. Mmh. Ça veut dire que vous avez des salariés qui viennent travailler dans des conditions mais déplorables. Ils sont fatigués, usés avant même de travailler.
Par les transports
absolument.
En commun, voir les bouchons qui à Paris sont une réalité. Mais Charles Bec, je vais vous poser la même question qu'à Didier Chenet. Est-ce qu'on peut comparer Airbnb au mois à Britel ou Le Bon Coin avec un hôtel? Les services, ça n'a rien à voir.
Oh, ben vous savez, il y a maintenant des prestataires spécialisés qui sont mis en société.
Quand vous allez dans un appartement, vous faites votre cuisine, votre petit déj à l'hôtel, on vous prépare, vous allez au buffet.
Ils accueillent le touriste, lui remettent les clés, puis ensuite, et c'est eux qui vont faire le ménage, changer les draps, les serviettes, etc. Donc la prestation, elle commence à ressembler de plus en plus à l'hôtellerie. Alors c'est sûr, il n'y a pas le petit déjeuner servi au lit, mais enfin, peut-être que si, de temps en temps, j'en sais rien.
Mais ça ne nous regarde pas.
On est franchement, on est dans la para-hôtellerie. Ne nous l'aurons pas. Alors quand c'est occasionnel, quand c'est sa résidence principale, un mois par an, ok. Mais c'est pas du tout ça, ce qu'on constate dans une grande capitale comme Paris.
Mais est-ce que vous croyez pas que la plainte que vous portez, vous les hôteliers, ça va pas inspirer d'autres? Tiens, allez, je vais dire des noms. Air France ou la SNCF, bah par exemple, contre Blablacar. Alors le problème, c'est que SNCF est l'actionnaire majoritaire de Blablacar. Je crois ce qui va peut-être poser un peu problème. Alors, est-ce que ça va pas ouvrir un peu la boîte de Pandore?
Je vais déjà vous répondre, pas pour la SNCF, au nom de la SNCF, mais pour déjà vous rappeler une petite histoire. SNCF avait voulu monter un partenariat avec Airbnb. Nous sommes montés au créneau. Juste pour dire, est-ce qu'il est normal qu'une entreprise publique...
Public, 100% public,
avec l'argent donc du contribuable, finance une boîte totalement délocalisée, certes le plus légalement possible, mais délocalisée en Irlande, qui ne paye aucun impôt et qui n'est pas une entreprise citoyenne. Donc, je peux vous dire que le dossier avait été remisé et ils savent très bien que s'ils ont cette bonne idée à nouveau, nous remonterons au créneau. Donc, je ne peux pas parler en son nom. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que, encore une fois, nous, la compétition, la concurrence ne nous fait pas peur. Mais je vais prendre un exemple, c'est comme dans une compétition sportive. Bah nous on veut bien, mais on est des athlètes propres. Et nous on considère que là il y a du dopage et ça va pas.
Mais c'est pareil. Et Blablacar, c'est une très belle entreprise de covoiturage, mais donc ce sont là aussi Mais il y a des personnes qui veulent faire un trajet.
Il y en a qui ont fait leur métier de BlaBlaCar. Et bah, ils ont pris des minibus, des 9
voilà, places. Et bah, c'est plus et du covoiturage. C'est du transport. C'est du transport par autocar.
Et là, ça se fait de plus en plus.
Et là, il y a une autre réglementation. Alors maintenant que ce transport par autocar est ouvert à la concurrence, parce que ce n'était pas le cas il y a encore 2 ans, et bien maintenant, il y a des normes, il y a des règles qu'il faut respecter. En Espagne, BlaBlaCar est poursuivi par les autocaristes espagnols parce que, clairement, il y a eu. Il semblerait, pardon, je vais utiliser le conditionnel, qu'il y ait des abus et ça sera jugé par les tribunaux.
Mais là, vous êtes plus de 800 hôteliers à avoir porté plainte, vous sortez l'artillerie lourde.
Ah oui, mais attendez, on a toutes les associations d'agents immobiliers avec nous. Parce que c'est pas simplement nous, c'est de dire, attention, Airbnb, vous faites clairement le boulot d'une agence immobilière. Agence immobilière, moi, si je suis agent immobilier, je dois avoir une autorisation, je dois avoir un certificat, je dois produire des garanties financières, parce que lorsque je contracte avec un client, je dois lui assurer une garantie. Messieurs d'Airbnb, où en êtes-vous ? Vous faites ce métier-là, vous n'avez pas l'autorisation. Vous faites le métier d'assureur, vous dites que vous assurez vos clients. Ben, si vous assurez vos clients, vous faites le métier d'assureur. Un métier d'assureur, ça ne se fait pas n'importe comment et c'est réglementé dans toute l'Union européenne. C'est la même chose pour les échanges d'argent. À partir du moment où Airbnb encaisse l'argent, eh bien, il a le rôle d'intermédiaire financier. Eh ben, tout à l'heure, Charles Bédé l'a rappelé, lorsqu'il a monté donc son site, eh ben, le jour de Boursorama, il a bien fallu qu'effectivement, il ait toutes les autorisations et les agréments. Or, aujourd'hui, ils n'ont aucun agrément.
Jusqu'à midi, nous parlons de Airbnb, entre autres.
Vous savez que vous avez mon agrément, Sophie.
Je l'espère bien. Les hôteliers ont-ils raison de se rebeller ? Allez, vous répondez à cette question, vous nous le dites comme d'habitude, au 0826 300 300, si vous avez utilisé Airbnb, si vous avez un appartement, si vous avez mis votre bien en location via Airbnb. N'hésitez pas aussi à témoigner et nous dire ce que vous en pensez sur donc, le standard de Sud Radio, 0826 300 300 et via sudradio.fr, où vous répondez à la question oui ou non. Et vous laissez vos commentaires. À tout de suite.
Sud Radio.
Le grand référendum. 11h midi.
Philippe David.
C'est la rébellion, on en parle, la rébellion des hôteliers contre Airbnb. Et c'est le sujet de ce grand référendum avec cette question. Les hôteliers ont-ils raison de se rebeller ? Et vous nous le dites évidemment, comme d'habitude, au 0826 300 300 et via sudradio.fr. Vous savez que, comme d'habitude, il y a des petites consultations qui sont mises en ligne, celles qui concernent ce sujet. Bien sûr, vous répondez par oui et par non à la question et vous laissez vos commentaires. Et bien sûr, c'est Clémence qui s'y colle, qui nous raconte tout ce qui se passe, ce que vous avez laissé, vous, les internautes auditeurs de Sud Radio.
Bah d'abord, vous êtes 72% d'accord avec Philippe David. Et enfin, puis...
Non, c'est pas avec moi, là c'est le grand référendum.
Ah oui, c'est vrai. Clément, on confond tout, vous savez. Au bout d'un moment, quand il arrive l'heure de l'apéro, là c'est fini, on n'est plus,
oui,
plus solide.
Tôt, là, l'heure de l'apéro. Mais... oui, bon, donc vous êtes 72% à dire oui, Airbnb, les hôteliers ont raison de se rebeller. Voilà, j'y arrive.
Bien sûr.
Et puis des commentaires. Le commentaire de Dagobert qui dit vive Airbnb. Et oui, parce que les commentaires ne sont pas d'accord avec les votes, c'est ça qui est intéressant. Ouais,
c'est toujours comme ça.
Oui. Qui dit vive Airbnb. Enfin, les personnes pas trop fortunées peuvent voyager et se loger à prix raisonnable. Les hôteliers ne font pas de cadeaux, ils louent des chambres à très cher, pas toujours nickel, et certains reçoivent des rentes des associations pour loger des SDF. Oh là là, celle-là, ça part très loin. Mais et sinon, on a Lolo qui dit comme toujours, quand ils perdent de l'argent, ou alors quand ils en gagnent un petit peu moins, ils pleurent comme tous les commerçants, et quand ça fonctionne pas, on ne les entend pas.
Avec nous, Charles Bec-Bédé, homme d'affaires, président de Gravitation et fondateur de L'Avant-Garde avec chaque million, élu de Paris 8e, et Didier Chenet, président du GNI, le groupement national indépendant hôtellerie et restauration, qui a fusionné avec le Synorcat exactement pour être précis.
Absolument.
Alors, il y a un point qui me paraît important, c'est qu'on a parlé des hôteliers, mais des syndics de copropriété seraient... Vous voyez, comme je mets le conditionnel.
Il faut.
Serait au bord de la crise de nerfs, exaspéré, il s'organise maintenant en association. La ville de Paris, vous êtes élu à Paris, serait, paraît-il, submergée d'appels de gens furieux. Aujourd'hui, tous souhaitent encadrer l'activité d'Airbnb et consorts, mais est-ce qu'on peut réguler une activité mondialisée ? Charles Becbédé. Et vous avez entendu parler de cette bronca du côté
oui.
de Paris.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a plein d'immeubles où il n'y a plus que un ou deux habitants normaux, entre guillemets, et que tout le reste, sur les 10 autres apparts...
Airbnb ne sont pas normaux.
Non, mais les 10 autres apparts, ce sont des touristes de passage. Tous les deux jours, c'est les valises, les clés à 3h du matin. Donc, ça devient insupportable. Et puis, il n'y a plus, du coup, de convivialité entre voisins dans beaucoup d'immeubles de Paris.
Même, on va dire, dans un beau quartier comme le 8e.
Je pensais plus au Marais, là, parce que, en fait, ça se concentre quand même beaucoup sur les arrondissements centraux de Paris.
Exactement.
Les arrondissements très touristiques et très prisés des touristes internationaux.
Enfin, le 8e est quand même un arrondissement très touristique, entre la place de la Concorde, les Champs-Élysées.
C'est bien pour s'y balader, en effet, pour aller dîner, faire la fête.
La Madeleine.
Et bien, plein de choses à visiter, de très belles églises, en effet. Mais c'est moins pour y habiter. C'est un arrondissement aussi où il y a d'ailleurs énormément de gens qui travaillent et puis il y a des gens qui y résident. Et c'est moins touristique, c'est plus de l'haussmannien classique.
Et les syndics de copropriété sont furieux également, manifestement, parce qu'ils commencent à se mettre en association.
Oui, bien sûr, mais à partir du moment où le système a complètement explosé, ou complètement dévoyé, où il y a des abus, franchement, ça génère énormément de nuisances pour les résidents, les syndicats hôteliers, bien sûr, les syndics de propriété.
Parce que les syndics, en fait, c'est eux qui ont à gérer le problème des copropriétaires qui ne peuvent plus accepter de payer des travaux de rénovation de l'immeuble, un certain nombre de choses, tout ça parce que d'autres copropriétaires louent dans des conditions...
Et carrément à temps complet.
Et les charges
à temps complet.
L'usage de l'ascenseur, par exemple, est beaucoup plus fréquent dans un immeuble.
Toute la répartition des charges.
Et
vers qui se retournent les copropriétaires? Vers le syndic, qui, on le sait, ce n'est pas une profession qui est très fortement rémunérée sur la gestion des immeubles, et qui aujourd'hui se retrouve à négocier, à renégocier même leur contrat de gestion, en disant, mais attendez, nous, on ne peut pas continuer à faire ce boulot-là.
À ce prix-là.
Oui, mais les autres copropriétaires vous disent, mais attendez, nous, on ne va quand même pas payer, pour en plus ceux qui font du fric, en louant leurs appartements.
Mais je vous repose la question, parce que vous ne m'avez pas répondu, oui. Est-ce qu'on peut réguler une activité mondialisée?
Ben oui, il faut. Il faut, parce que d'ailleurs, ça c'est un point très important, c'est que toutes ces plateformes,
c'est vraiment une conversion.
Toutes ces plateformes américaines. Non mais attendez, moi j'en ai marre, parce que là depuis une dizaine d'années, donc on a vu l'émergence de toutes ces plateformes. Alors elles apportent un certain bénéfice aux consommateurs, c'est super, mais elles ne payent aucun impôt en France et quasiment aucun en Europe non plus. Et tout va...
Si, en Irlande.
En Californie,
non,
oui,
après,
mais même
ça
pas
part
parce
au Delaware.
Que, même pas
oui,
parce qu'en Irlande,
Delaware, qui est un paradis fiscal aux États-Unis.
Oui, oui, ils font le sandwich hollando-irlandais et puis ils payent quasiment, franchement, rien en Europe. Tout va aux États-Unis. Et donc, c'est comme une sorte de gigantesque racket, limite mafieux, opéré par quelques start-up monstrueusement capitalisées, basées en Californie et qui, sur tous ces secteurs, opère un racket sur les activités traditionnelles européennes. C'est pas acceptable. Moi, je suis entrepreneur. Alors, j'ai d'ailleurs, donc, sur le secteur, si je puis me permettre, de la réservation hôtelière, c'est monstrueux ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pratique.
Booking.
Je parle de Booking et d'Hôtel.com et je n'ai pas peur de le dire.
C'est un oligopole.
C'est un racket mafieux.
Et Expedia.
Hôtel.com, c'est une filiale d'Expedia.
Dans lequel voyage SNCF a plus que des intérêts. C'est là où...
Ils ont un deal exclusif.
Mais je vous pose la même question, Guichelet. Oui. Est-ce qu'on peut réguler une activité qui est de facto mondialisée? Le numérique, peut envoyer un mail de Sydney à Tokyo.
Écoutez, le problème aujourd'hui, c'est que c'est un problème qui a été difficilement traité, difficilement appréhendé. Mais quand vous regardez ce qui se passe, il commence à y avoir une régulation. Alors, elle n'est pas uniforme, parce que c'est une régulation à New York, c'est une régulation à Berlin. Berlin, vous savez, le maire, il a dit, écoutez, Airbnb...
On va en parler après.
Donc, il y a une régulation, mais cette régulation, elle est désordonnée, parce que, effectivement, ce sont les villes qui, les unes après les autres, essayent, voire quand ce sont des États qui essayent un petit peu. Je crois qu'aujourd'hui, on commence à faire prendre conscience à nos hommes politiques de la situation. Parce qu'au départ, il faut bien le dire, il y a 18 mois, je suis désolé, mais la conscience vraiment de ce que cela représentait et de l'évaporation fiscale et donc du manque à gagner pour l'État, je le disais tout à l'heure, les hôpitaux, la police et tout ça, du manque à gagner qui va devenir considérable. Et en fait, cette espèce de soumission à un travail au noir qui ne veut pas dire son nom. Donc ça avance. Mais c'est très long. Quant à la régulation, en voir une régulation uniforme, non, je n'y crois pas, mais elle commence à se faire dans un certain nombre de pays.
Charles Becbédé.
Mais la régulation, elle existe. Alors, il faudra peut-être l'adapter et créer un cadre pour ce type de location saisonnière. Mais, encore que ça existe déjà, mais il faudra peut-être l'adapter. Mais ce n'est pas respecté. En fait, c'est ça le problème. Ouais. C'est qu'on est dans un pays où plein de lois, plein de réglementations ne sont plus respectées.
Je voudrais vous poser une question.
Ne sont pas appliquées par l'État.
On a commencé avec les hôtels, on continue avec les syndics. Vous avez parlé de sécurité. Comment est-ce que ça se passe pour les assurances d'un Airbnb? Parce que malheureusement, un locataire, il peut mal éteindre un mégot et mettre le feu chez vous, etc. Comment est-ce que ça se passe, Didier Chenet?
Écoutez, jusqu'à présent, alors je fais un mauvais jeu de mots, mais c'est un peu comme le mégot, les affaires ont été écrasées. Voilà. Mais c'est tout.
Je ne vous demande pas ce que vous avez fumé pour faire un jeu de mots comme ça.
Non, mais si vous voulez, quand vous pensez, nous encore une fois, dans toute cette affaire, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons la transparence. Quand vous pensez qu'il a fallu batailler à l'Assemblée, mais pendant des mois, pour que dans la loi de finances, on oblige les plateformes à déclarer les revenus perçus par les loueurs. Et encore, ça ne sera applicable qu'en 2019. Mais enfin,
on va en parler
nous,
aussi.
Les chefs d'entreprise, nous déclarons ce qui est normal. Personne ne...
La TVA, les salaires pour les charges sociales, etc.
Tous les salaires que l'on verse à nos salariés au fisc. Et alors, c'est d'autant plus choquant qu'on va en venir, théoriquement, au prélèvement à la source. Alors, on ne voudrait pas que les plateformes déclarent, mais pour autant... On va demander aux chefs d'entreprise de venir faire une déclaration à la source. Donc l'État, de toute façon, sera bien évidemment au courant.
Charles Béguizé, en termes de sécurité, ça ne pose pas de problème?
Si.
Notamment pour les assurances?
Bah si, bien
vous
sûr.
Vous, en Airbnb, quelqu'un est un malin mégot, ça peut arriver
Oui, et puis vous savez, il y a d'autres problèmes de sécurité financière. C'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont sur le site d'Airbnb, qui à un moment sont orientées vers une autre page qui a l'air du Airbnb, et puis en fait, pas du tout.
Et c'est du phishing.
C'est un escroc qui propose un bien Absolument. Qu'il ne possède pas, et il se fait payer, et puis bien sûr,
l'argent
le locataire, quand il se pointe, il n'y a personne.
Et puis d'autres problèmes de sécurité sur les biens, exactement, sur les biens et les personnes.
Alors, à ses débuts, en 2008, Airbnb, c'était un des symboles de l'économie de partage, on parlait de Blablacar tout à l'heure. Paris avait environ 60 000 annonces, est devenue la première ville au monde pour la plateforme californienne. Et je vais me faire l'avocat du diable, Didier Chenet. Si Paris, la plus belle ville du monde, allez, soyons un peu chauvins, est devenue la première ville pour être Airbnb, est-ce que c'est pas parce que l'hôtellerie n'est peut-être pas à la hauteur?
Que nous ayons une part de responsabilité, je ne le nie absolument pas.
Il faut bien se faire l'avocat.
Je ne le nie absolument pas. Je pense que notamment Airbnb apporte une réponse à une clientèle familiale. Aujourd'hui, nos hôtels ne sont ni en mesure, ni en capacité, je dirais, en termes d'espace, ni même financièrement, ne peuvent tous, accueillir des clientèles familiales. Si vous vous situez, par exemple, en plein Paris, alors que dans d'autres régions, vous avez cette capacité d'accueil. Donc, il y a un certain nombre de réponses qui ont été apportées. Et peut-être une écoute complémentaire de la clientèle. Je crois que si nous avons aussi commis une erreur, je le dis, c'est qu'avec les plateformes de réservation dont nous parlions tout à l'heure, Booking, Expedia, bon nombre de nos collègues se sont dit « c'est formidable, ils font le boulot à notre place ». Sauf qu'au départ, ils réclamaient 7%, puis maintenant, ils sont venus complètement prendre à la gorge.
C'est un peu comme Uber.
Et maintenant, c'est 20%.
C'est
alors, inutile de vous dire que
20%
les hôteliers,
du chiffre d'affaires,
vous rendez compte.
C'est 20% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que c'est un racket.
C'est un racket inouï.
En moyenne.
Donc,
donc, ce qui fait que depuis 10 ans, le prix des nuitées d'hôtel a augmenté plus vite que l'inflation, alors que tout est passé online et que théoriquement, ça aurait dû baisser.
Absolument.
Donc, on est vraiment en face
d'une anomalie
de marché.
Une anomalie de marché. À laquelle, je le dis, nous avons certainement une part de responsabilité. Mais on ne peut pas, si vous voulez, aujourd'hui, dire que Airbnb répond à la demande parce que nous avons été défaillants. Non, il répond. 85% des clients d'Airbnb viennent pour le prix.
Alors, parce que les prix sont cassés.
Évidemment. Si vous ne payez pas d'impôts, si vous n'avez pas de charges sociales, vous ne payez rien, vous avez toutes les chances d'être quand même plus compétitif. Si vous prenez un plombier au noir, il vous coûtera moins cher que d'aller chercher le...
Un plombier déclaré.
Voilà.
Ça, c'est évident. Vous pensez la même chose, l'hôtellerie à Paris, il n'y aurait pas des progrès à faire quand même, Schalbeck-Bédé, vous qui êtes élu de Paris?
Mais bien sûr, mais elle le fait, elle se modernise à travers Audacia, nous, qui est une entreprise que je possède et qui accompagne beaucoup d'hôteliers, bien on voit qu'il y a, il y a un mouvement de modernisation. Mais c'est difficile parce que c'est vrai qu'il y a cette attaque Airbnb, il y a l'attaque des plateformes de réservation hôtelière américaines. Et donc la marge des hôteliers n'est pas très importante.
Alors on va parler de ce qui a été fait ailleurs. À San Francisco, la ville où pourtant c'est le berceau d'Airbnb, il y a eu une loi Airbnb qui a été adoptée en 2014 et qui a instauré une obligation d'enregistrement du logement, une taxe de séjour de 14% et une limitation annuelle à 90 jours pour les locations sur plateforme. On traverse l'Atlantique, on vient à Barcelone. La mairie a pris des mesures répressives. Elle a annoncé qu'elle allait fermer 254 meublés loués sans autorisation à des touristes avec une amende de, accrochez-vous bien, 30 000 euros pour les propriétaires. On a même embauché à Barcelone 20 employés municipaux pour aller vérifier si les propriétaires respectaient bien les règles émises. Et à Berlin, on trouve la réglementation, c'est la plus sévère, puisque depuis le mois de mai 2016, il n'y a pas tout à fait un an, il est interdit de mettre une location entière en location, un logement entier sur Airbnb. Le propriétaire qui loue plus de la moitié de son logement est passible d'une amende. Alors là, c'est beaucoup plus cher qu'en Espagne, de 100 000 euros. Et les habitants sont encouragés à dénoncer les locations suspectes. Est-ce que vous voudriez, Didier Chenet, qu'on s'inspire des autres villes? Finalement, si on remarque une chose, c'est des lois locales qui ont été faites. Vous connaissez le proverbe « penser global, agir local ». Est-ce que plutôt que de compter sur le gouvernement et le Parlement, ce serait pas mieux d'agir local?
Alors,
quand on voit Berlin, Barcelone, San Francisco.
Oui, très certainement, car le pouvoir est un pouvoir essentiellement local. Après, il y a les règles, les normes qui sont les normes, je dirais, nationales. Mais ce qu'a fait à Berlin, vous savez, ils ont pris au mot Airbnb. Airbnb vous raconte, venez chez l'habitant, vous serez accueillis, vous allez participer à la vie de famille, et puis tout ça. Très bien, messieurs. Mais alors, puisque c'est ça, vous n'avez aucun problème pour louer une chambre. Vous avez l'autorisation. Maintenant, quand c'est pour louer un appartement vide, ce n'est pas dans votre objet social. Ou en tous les cas, ce n'est pas ce que vous nous racontez. Par conséquent, circulez. Et voilà. Donc, je crois que si vous voulez, le fait qu'Airbnb et les autres n'aient pas voulu discuter, parce qu'à chaque fois, ils vous ferment la porte. Et encore une fois, on nous fait tout un grand numéro en disant c'est parce que vous êtes des mauvais, si vous aviez été meilleurs, on n'aurait pas des, on serait pas développé comme ça et tout. Donc, ils ferment la porte à toutes les discussions. Mais peut-être que maintenant, avec tout ce qui arrive comme contrainte et comme exigence, je dirais simplement, de respecter la loi, c'est tout, de respecter la loi, bien peut-être que maintenant, on va en venir à une discussion, et une discussion saine. Vous savez, nous les professionnels, ce que nous pensons, c'est que à l'issue des élections, ce que nous souhaitons, c'est que l'on réunisse l'ensemble des acteurs de l'hébergement marchand. Qu'est-ce qu'on entend par hébergement marchand? Ça va depuis le camping jusqu'à, pourquoi pas, Airbnb, les gens qui louent. Et que l'on se mette autour de la table et dit, bon voilà, le cadre, il est celui-là. Alors, comment on traite réglementairement la situation? Mais qu'on n'aille pas saucissonner, parce que le gros problème, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, on essaye de trouver une solution, mais au cas par cas. Et c'est comme ça qu'on fait une loi, on en fait une deuxième, on en fait une troisième, qui pour la plupart ne sont pas appliquées, car on attend aussi encore les décrets d'application. Et là...
Vous qui êtes élu de Paris, Charles Becbédé, vous entendez San Francisco, pourtant le berceau de Airbnb, Barcelone, Berlin, vous dites Anne Hidalgo devrait en prendre de la graine? Non, vous n'êtes pas du même bord.
Ouais, on est dans l'autre, je suis dans l'autre camp. Ils font des choses à l'hôtel de ville, heureusement, vu ce que ça coûte. mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Didier Chenet. Je pense qu'on a besoin là d'une régulation étatique. Alors, elle existe, il faut l'adapter.
Vous allez tout mettre à plat. Il y a besoin d'une régulation étatique. On m'aurait dit qu'un jour j'entendrais Charles Becbédé dire ça.
Non mais arrêtez de penser qu'un entrepreneur, c'est un cow-boy qui veut aucune règle. C'est pas du tout ça. Moi je suis pour la concurrence libre et non faussée, non déloyale. Voilà. Et donc je pense que c'est plus un cadre au niveau national, voire européen, qu'il faudrait... mettre en place et puis ensuite faire appliquer les règles. Mais ça, oui, c'est ça qui est important. Parce qu'actuellement, on est en laxisme total.
Excusez-moi, on a été capable d'agir à Berlin, à San Francisco, à Barcelone, on n'est pas capable d'agir à Paris?
Si, si, il y a des choses, j'ai plus en tête les mesures qui ont été prises à Paris.
Le problème, c'est que on est un pays latin, donc par principe...
L'Espagne aussi, hein, oui, Barcelone. Oui, oui,
mais Barcelone... Mais bon, on est un pays latin... Le sport, pour échapper à toute fiscalité, c'est, je ne veux pas dire un sport national, mais c'est quand même quelque chose qui est assez répandu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est créer un corps de contrôle, parce que malheureusement, on en est là, un corps de contrôle. Je pense qu'à la mairie, il y a un certain nombre de fonctionnaires qui ne sont peut-être pas employés à 100% et qu'on pourrait peut-être, je mets toutes les, qu'on pourrait peut-être verser au corps oui. des contrôles. Et croyez-moi, une fois que vous avez eu un certain nombre de contrôles qui auront donné lieu à des amendes et que ces personnes auront payé les amendes, croyez-moi que ça va vite se réguler.
Nous en parlons jusqu'à midi, encore quelques minutes avec Philippe David et ses invités en direct sur Sud Radio pour ce grand référendum. Les hôteliers ont-ils raison de se rebeller? Bien sûr, on parle de Airbnb. Allez, on vous attend. Manifestez-vous, s'il vous plaît, avec vos oreillers, vos polonchons. Vous êtes là, tous devant, là. Allez, au 0826 300 300 et sur sudradio.fr. Vous laissez des commentaires et vous laissez votre voix pour nous répondre oui ou non à la question. À tout de suite.
Sud Radio.
Le grand référendum. 11h, midi.
Philippe David.
Nous parlons d'Airbnb pour ce grand référendum jusqu'à midi en direct sur Sud Radio. Et vous savez qu'une offensive fiscale a été élancée hein, contre Airbnb, justement, par les hôteliers. Et ces hôteliers ont-ils raison de se rebeller? C'est la question que l'on vous pose. C'est partout. Hein, d'ailleurs, c'est en une du Parisien. Enfin, on en parle beaucoup. Oui.
Vous voulez dire offensive judiciaire, vous allez dire offensive oui. fiscale. Parce que si vous dites offensive fiscale, Charles Becbédé lance la contre-offensive directement.
La contre-offensive. Une offensive fiscale et judiciaire est lancée en France. Je reprends le titre du Parisien. De ce matin, effectivement. Alors, on y va, c'est parti au 0826 300 300 et sudradio.fr pour réagir. Clémence, est-ce que ça avance?
Bah, vous votez...
Ou ça recule, ça dépend.
Non, ça avance doucement, mais sûrement. Vous votez 73% oui pour Airbnb. Les hôteliers ont bien raison de se rebeller. Et puis, donc, on rappelle hein, que parmi ce vote, il pourrait y avoir le vote de la mairie de Paris, puisque la mairie de Paris elle-même dénonce 20 000 logements perdus à cause de Airbnb.
Et nous avons au téléphone Alvin qui habite à Paris, justement, au 0826 300 300. Bonjour Alvin.
Bonjour Alvin.
Bonjour.
Bienvenue
bonjour.
Sur Sud Radio.
Bonjour. Donc j'aurais juste voulu faire part un petit peu d'un témoignage. Donc j'étais l'an passé dans la ville d'Épinal. Donc à Épinal, en plein mois d'avril, donc c'est pas très touristique, c'était début avril. Et donc j'ai souhaité me loger. Donc il n'y avait pas un hôtel à moins de 70 euros. Comme s'il y avait une entente entre les hôteliers, un petit peu comme on a pu le voir au niveau de la téléphonie mobile, ou au niveau des groupes pharmaceutiques, au niveau une espèce d'entente qui fait que si vous n'avez pas 70 euros en poche, ben vous ne pouvez pas dormir dans la ville. Le problème, c'est que le seul Airbnb qu'il y avait était en pleine campagne, donc assez loin, comme j'étais juste de passage dans cette ville, et je me suis rendu compte à quel point il y avait aussi une entente hôtelière. Et c'est pour cela que Airbnb correspond à un vrai désir au niveau de la population, c'est-à-dire de pouvoir être logé facilement, au moindre coût, et de pouvoir découvrir des villes autrement que par des hôtels qui, à un moment donné, sont dans des ententes financières qui font que vous n'arrivez plus à vous loger à moins de 70 euros, et encore c'est le minimum, dans certaines villes avec, je dirais, un tout petit espace touristique et culturel, parce que bon, Épinal, je veux dire, en dehors de
c'est
deux,
pas
trois
très
choses,
grand.
Il y a pas grand-chose à voir. Voilà. Donc je voulais juste faire part un petit peu de cette réflexion qui est aussi sur l'entente des hôteliers au niveau de lois tacites un petit peu sur certaines villes qui s'entendent entre eux, un petit peu comme une loi secrète, et qui font qu'il ne peut plus y avoir de petits hôtels comme moi j'ai pu connaître il y a encore 10 ans ou 15 ans, où il y avait toujours un hôtel proche d'une gare, où il y avait vraiment des tarifs très très abordables. Donc on a le sentiment que maintenant tout est terminé et qu'effectivement tous les hôtels qui sont devenus bien, hein, je veux dire en termes de confort, etc., mais sont devenus aussi dans un alignement et une standardisation qui fait que les gens qui n'ont pas envie forcément de dépenser de l'argent dans une nuit d'hôtel parce qu'on préfère le dépenser autrement, eh ben, on se trouve un petit peu marron lorsque l'on voyage beaucoup.
Et Alvin, dites-nous s'il vous plaît, vous allez régulièrement chez Airbnb ou pas? Excepté à Épinal, hein.
Bah moi j'utilise Airbnb le plus souvent possible parce que d'une part ça me permet vraiment sur une semaine d'économiser donc
pas mal d'argent.
Pas mal d'argent dans le sens où j'aurai que deux jours à l'hôtel, donc je peux avoir cinq jours de plus. Et puis comme je valorise pas forcément l'hébergement, ce qui m'intéresse c'est de visiter une ville, c'est de consommer dans les restaurants, c'est de consommer dans les musées, et pas forcément dans une chambre. Donc si vous voulez, c'est ça aussi. C'est-à-dire que la chambre, on est juste là pour dormir, on n'est pas là pour, si vous voulez, pour un décorum. Ou, enfin, moi, c'est comme ça que je le situe, hein, dans la maison où je voyage beaucoup. Et c'est vrai que, voilà, donc c'était un petit peu cette remarque que j'aurais voulu un petit peu souligner et apporter aux hôteliers, c'est-à-dire un petit peu cette forme d'entente qui fait qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il n'y a plus, en dehors des Formule 1 où il faut aller à l'extérieur, qui sont dans un confort assez simple, qui offrent effectivement 3-4 personnes pour moins cher, mais en centre-ville maintenant, on ne peut plus se loger. Voilà.
Alors, en dehors de
70 euros.
Alvin, merci beaucoup de votre témoignage. Je vais faire réagir Didier Chenet.
Oui, alors Alvin, bonjour. Moi, je suis frappé dans votre explication d'abord que tout porte bien sur le prix avant toute chose. Vous dites, moi, le confort à la limite, voilà. Ce qui est important pour moi, c'est de payer le moins cher possible pour que je puisse aller dépenser de l'argent autrement. Donc, on revient toujours à ce problème de prix. Et je rappelle que pour ce qui nous concerne, dans le prix d'une chambre, vous avez, on l'a dit, des impôts, des taxes. Vous avez aussi un certain nombre de règles que nous avons été amenés à respecter. Je parlais notamment de l'accès handicap. Aujourd'hui, vous allez dans un Airbnb, rien n'est prévu pour l'accessibilité handicap. Et vous savez que aujourd'hui, ça fait partie d'une des priorités de tous les gouvernements de faire en sorte que tout ce qui est établissement qui reçoit du public puisse être accessible handicap.
Répondre à la norme PMR, voilà. Personne à mobilité réduite.
Et ça, ce sont des investissements considérables que nous avons été amenés à faire et qui font que ça vient s'ajouter au coût, bien entendu, de la chambre. Maintenant, je ne sais pas si la comparaison que vous faites, je pense que vous êtes allé sur des sites, j'imagine, pour voir les prix. Mais vous savez que les sites, c'est une chose. Si vous appelez directement l'hôtel, vous avez moyen de négocier, car lorsque vous ne passez pas par les sites de réservation, l'hôtel échappe à la commission. On a dit que cette commission pouvait aller jusqu'à 20%. Vous avez moyen de négocier votre prix. Si le prix est affiché à 70 euros sur Booking, eh bien sachez que vous avez une marge de manœuvre et que si vous appelez l'hôtel directement, s'il y a un bon réceptionniste, ça c'est une autre affaire, eh bien vous pouvez obtenir des réductions. Donc c'est ça ce que je veux dire et qui est important, car depuis la loi Macron que nous avons réussi, l'amendement que nous avons réussi à faire voter, nous ne sommes plus tenus à avoir le même prix sur le site de réservation qu'à l'hôtel. Et
oui,
ça c'est nous qui avons gagné.
Ça c'est un Charles point très important, c'est vrai que c'était inouï, c'est-à-dire que le cartel des OTA, donc des Online Travel Agency, les Booking et Expedia, interdisaient systématiquement à tous les hôteliers d'être moins chers en direct que sur leur propre plateforme. Donc c'était inouï. Alors d'ailleurs, je reviens à mon Pilgo, PayGeo, qui est une plateforme de réservation hôtelière où on a à la fois les prix en direct et le meilleur prix des OTA. Et on peut à ce moment-là arbitrer, et on choisit, et on peut réserver sa nuit d'hôtel. Et nous, au lieu de prendre 20% du chiffre d'affaires, on prend 1 euro par chambre. Bon. Parce qu'après tout, il faut bien se rémunérer, mais c'est rien.
On va encore au standard.
Et allez. Du coup, ça fait gagner 14 euros pour Elwin, là, qui.
Le client.
Parce que 20% Alvin. De 70 euros, ben, ça fait 14 euros de moins.
Et Alvin et Marouane aussi au 0826 300 en direct sur Sud Radio. Bienvenue, bonjour.
Bonjour Marouane, bienvenue sur Sud Radio.
Merci beaucoup, bonjour à vous. Je vous appelais en fait pour vous donner un petit peu mon point de vue par rapport à ce dont vous parlez depuis ce matin. Moi je suis un petit peu d'accord et pas d'accord, dans le sens où je suis d'accord que les hôtels se plaignent un petit peu, etc. Mais je pense qu'en fait tout le monde trouve sa clientèle, que ce soit Airbnb ou que ce soit les clients. Vous savez, aujourd'hui en France il y a beaucoup d'étudiants et voilà, je pense qu'on n'a pas beaucoup de moyens et ça nous permet aussi de payer des chambres qui sont pas très chères, à 30-40 euros, etc. Et quand on voit le prix des hôtels, je suis désolé, à 70-80 euros on peut pas se permettre. Encore une fois, c'est bien une question d'argent. Hein, je pense que la crise nous a tous touchés, plus ou moins. Et voilà, donc je suis. Voilà. Et puis j'écoutais tout à l'heure l'intervention de votre invité concernant, vous savez, le syndic, etc., que ça revenait plus cher au syndic. Moi, je ne vois pas la différence quand c'est un copropriétaire qui utilise son ascenseur ou que ce soit une personne qui fasse un Airbnb. C'est exactement la même chose. Donc je ne vois pas pourquoi ça coûterait plus cher. Voilà.
Alors, merci beaucoup Marouane de votre témoignage. Je vais faire réagir Didier Chenet, président du syndicat de l'hôtellerie.
Bonjour Marouane. Marouane, vous êtes étudiant. Et demain, qui paiera les études? Qui, lorsque on sera dans un système économique où vous avez ces grandes plateformes qui brassent quand même et qui sont valorisées des milliards? Je rappelle que Airbnb est une entreprise qui repose uniquement sur un fichier, je vais être très, très basique, un fichier informatique qui est valorisé 30 milliards de dollars, c'est-à-dire au-delà de Hilton et tout ça. Bon, c'est une belle somme. Donc, qui paiera demain le système éducatif français que tout le monde nous envie? Qui paiera les hôpitaux? Mais vous qui êtes étudiant, vous aurez la difficulté non seulement de trouver à vous loger, mais en plus, vous serez mis dans une situation où vous allez être obligé de payer vos études. Et c'est le système américain. Est-ce qu'on en veut? Nous, non. Nous, on part du principe qu'on a cette chose-là. Donc, encore une fois, le prix, le juste prix, pour paraphraser, le juste prix, et c'est ce qui fait que nous demandons cette régulation.
Charles Begbédé, vous voulez répondre à Marwan?
Non, mais le problème, c'est qu'il y a des coûts qui s'empilent et qui font que l'hôtellerie, c'est quand même une prestation, en effet, haut de gamme. Bon, il y a plusieurs catégories d'hôtels, mais si un étudiant veut se loger, je ne pense pas qu'en effet, il va se loger à l'hôtel. Et non. Il faut qu'il trouve un appartement, éventuellement en colocation, mais dans des conditions équitables qui permettent à ces deux métiers de se développer parallèlement.
Et d'où le développement actuel qui est tout à fait étonnant, mais très intéressant, des auberges de jeunesse qui sont en train de vivre une nouvelle vie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui investissent dans ce type d'hôtellerie. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être bonnes parce que ça réveille un marché, ça crée de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Donc, il ne faut pas tout jeter. Mais encore une fois, qu'on respecte les lois et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité.
Alors, comme on a parlé de beaucoup de choses, mais qu'on n'a pas tout dit, je vais rappeler quelques petits trucs. Bercy vient de durcir le ton pour les particuliers loueurs. S'ils devaient déjà déclarer les montants perçus en louant leurs biens dès le premier euro, ils doivent désormais, au-delà de 23 000 euros de revenus par an, payer des cotisations sociales. Ça a été dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2016. L'Assemblée nationale a aussi donné son feu vert à une déclaration automatique au fisc par Airbnb des revenus, mais à partir de 2019, vous en aviez parlé, Didier. Enfin, je vais donner des chiffres. En 2015, Airbnb a déclaré un chiffre de 4,95 millions d'euros en France, a réalisé 166 373 euros de bénéfices, mais n'a payé que 68 168 euros. Merci beaucoup.
C'est ce qui fait que son chiffre d'affaires estimé en France est de 800 millions d'euros.
Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Merci beaucoup Didier Chenet, merci beaucoup Charles Begbédé.
Alors le résultat, la consultation qui est mise en ligne sur sudradio.fr, oui ou non, la question de ce grand référendum, les hôteliers ont-ils raison de se rebeller contre Airbnb?
Vous votez oui majoritairement à 73%.